Dimanche 13 juin 2021, bienvenue à notre édition du podcast La Relève. Anthony Desaulniers qui est avec vous comme toujours, en compagnie de Martin Thériault et de Nicolas Cloutier. Les boys, en cette veille de premier match du Canadien de Montréal en demi-finale de la Coupe Stanley, comment ça va?
Ça va super bien, puis vous autres?
Ça va bien, mais écoutez, moi je suis pas un fan des. Je suis pas un partisan des Canadiens de Montréal. Je suis content, ça donne une belle. C'est la fièvre des séries là, du côté de la métropole, si tu veux. Mais vous êtes des partisans des Canadiens. Vous, la fièvre est là. J'imagine que c'est encore plus. Je me mets à votre place, puis c'est encore plus merveilleux de se préparer pour un premier match qui est demain. Là.
Ben, partisans, je veux dire, on est censé être objectif, là, mais je veux pas, c'est impossible de demeurer indifférent contre les Québécois. Ça fait un peu partie de notre fibre identitaire. Je veux dire, je pense qu'à ce moment-ci de l'année, monsieur, madame, tout le monde devient un partisan des Canadiens, que tu sois fan de hockey ou non. Alors, c'est un peu naturel, mais on essaie quand même de se garder une distance professionnelle par rapport à ça, même si parfois la ligne est floue un peu. Là.
Moi, je n'ai aucune distance. Je suis partisan à 100% derrière le Canadien. Non. Bleu, blanc, rouge, non, mais sans blague, très excité. Puis en plus, on s'entend, là, les Golden Knights de Vegas, c'est très sexy comme match-up. Autant tu as l'ancien capitaine Max Pacioretty qui est là, tu as Marc-André Fleury qui est dans les filets, probablement les deux gardiens les plus hot des séries jusqu'à maintenant là, qui vont s'affronter. Je pense que ça va être le fun, puis ça va faire du bien aussi de juste affronter une autre équipe que les 6 équipes qu'on a affrontées tout au long de la saison, dans un contexte complètement différent. Le Canadien était... numéro 1 avec 2500 partisans. Là, on va se transporter à Vegas où est-ce qu'on le sait, c'est l'aréna qui est bondée. Il y a des spectacles, dans la foule, c'est quelque chose. Même si c'est seulement leur 4e année dans la Ligue, le Vegas ont vraiment le concept du spectacle est mis de l'avant. Et je pense que ça va faire une belle série, honnêtement. Comme un peu tout le monde, je vois le Canadien négligé, mais je pense qu'ils vont être capables de tirer un peu plus leur épingle du jeu que certains experts le prétendent. Toutefois, ce qui est intéressant à noter, puisque les succès du Canadien sont là, ça va faire en sorte que le Canadien va se retrouver à repêcher très bas.
Très, très bas, ouais. Ben, c'est ça, exactement. Parce que faut comprendre, les gars, que si le Canadien avait simplement accédé au deuxième tour et avait été éliminé par la suite, ça n'aurait rien changé au rang de repêchage des Canadiens. Mais du moment que tu atteins les demi-finales, là, ça influence la position où tu repêches au premier tour. Et là, ce qu'il faut comprendre et ne pas oublier cette année, c'est que les Coyotes de l'Arizona ne vont pas repêcher au premier tour en raison du fameux scandale là, qui avait impliqué l'ancien directeur général John Chayka, qui aurait invité des espoirs à prendre part à des évaluations physiques là, avant le fameux combine. Donc ça signifie que le Canadien va pas repêcher au plus tard au 29e rang, là, au moment où on se parle, mais au 28e rang en ce moment. Évidemment, là, ça change encore une fois si les Canadiens atteignent la finale de la Coupe Stanley. Et moi, je veux juste ajouter que j'ai hâte de voir le match-up parce qu'on a ri de la section Nord toute l'année. Et là, on va peut-être pouvoir avoir des réponses à nos questions. Est-ce que la section Nord était vraiment faible? Est-ce qu'on a manqué de respect aux Canadiens et aux autres équipes canadiennes du même coup?
Non, c'est un bon point. Moi, personnellement, ça m'a toujours fait rire, ça, parce que quand la saison a débuté, on disait que la section Nord serait une des bonnes divisions de la Ligue nationale. Bon, finalement, c'est tout le contraire. Pourquoi, je ne sais pas. Mais moi, je me rappelle au début de la saison d'avoir tenté le jeu des prédictions avec le classement général et dans la division canadienne, bien évidemment. Et moi, je mettais Vancouver premier. Fait que de là à dire que, ah, mais là, il y avait Vancouver, c'est une équipe qui est moribonde, c'est une équipe qui est pas très bonne. Moi, je l'avais pas vu venir. Je pense qu'il y a bien des gens qui l'avaient pas vu venir. Tandis que dans la division des Golden Knights, c'était assez facile de savoir que les trois équipes de la Californie allaient connaître des difficultés cette saison. Donc, moi, j'ai un petit peu de la difficulté avec le concept que la division canadienne est plus faible. C'est ce qui explique pourquoi le Canadien a réussi à se faufiler. Donnons tout simplement du crédit aux Canadiens de Montréal. Ils ont surpris bien les experts et je pense qu'on doit tout simplement leur lever notre chapeau. Mais par contre, je reviens au repêchage. Oui, cette année, ils vont repêcher plus bas. Cependant, est-ce que c'est pas l'année idéale pour justement repêcher dans le bas du classement? Parce que avec l'absence de données, avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on a pu évaluer convenablement, comme c'est le cas par les dernières années, il risque d'avoir des joueurs qui glissent. Donc peut-être que le Canadien, au rang 17, ce joueur-là va se retrouver au rang 28. C'est possible ça, Marty?
Ben, c'est tout à fait possible. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est que je vais parler pour moi, là, ma propre liste. Il y a environ un groupe de 17 à 18 joueurs que je trouve vraiment excellents. Puis par la suite, je trouve que ça descend un peu de catégorie. Puis peu importe si je repêcherais si je repêchais 19e ou je repêchais 45e, je trouve que la différence est assez minime. C'est pour ça que j'ai l'impression peut-être qu'il va y avoir plus de vols qu'à l'accoutumée lors de du deuxième tour du repêchage, parce que c'est des joueurs qui auront peut-être été moins vus, on aura peut-être eu moins le temps de se préparer au niveau de l'évaluation. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ben oui, tu as raison, je pense, là, de dire que les Canadiens au rang 28, ben, ça veut peut-être un peu les. Pas les aider, mais je veux dire, c'est peut-être un peu moins grave que par d'autres années où là, le bassin de 20 meilleurs joueurs est vraiment plus excellent par rapport au reste, si on veut.
Oui, parce que souvent, quand on va voir un vol en fin de premier tour, ben forcément, c'est parce qu'il y a des équipes avant qui ont fait des erreurs. Et quel est le meilleur repêchage pour faire des erreurs? Ben, c'est celui-là avec l'absence de données que tu as mentionné, Anthony.
Exact. Je vous rappelle, le Canadien a son propre choix de premier tour et il détient aussi son choix de deuxième tour ainsi que celui du Lightning de Tampa Bay, donc dans la deuxième ronde. Donc, ce sera surveillé dans un peu plus d'un mois. Là, ce sera le repêchage. Autrement dit, ce sera Noël pour nous ici au podcast La Relève.
On a reçu Zachary Bolduc la semaine dernière au podcast. Est-ce qu'il va peut-être être finalement le parti lorsque les Canadiens vont repêcher? On se posait la question la semaine dernière, ben là, c'est beaucoup moins évident, je pense.
Ouais. Je pense quand même qu'il reste un peu dans le range du Canadien, mais comme on a dit la dernière fois, Marc Bergevin a des munitions s'il souhaite tant que ça repêcher Zachary Bolduc. Je continue de croire que Zachary Bolduc demeure une option, moi, pour le tricolore.
Je pense qu'à 28, il va être parti, mais comme Nick dit, si le Canadien y tient, ils vont pouvoir « trade up », comme on dit en bon français, pour l'acquérir. Toutefois, un autre Québécois qu'ils ont mis la main dessus dans les derniers jours, c'est Justin Ducharme. On l'a vu dans les dernières séries, là, il a perdu à la finale de la Coupe du Président contre les Tiques de Victoriaville. Mais Justin Ducharme s'est entendu un contrat « two-way », mais attention, « two-way » avec le Rocket de Laval et les Lions de Trois-Rivières.
Oui, bien écoute, ben c'est un pari vraiment intéressant. Là. Justin Ducharme, c'était quand même un des meilleurs joueurs de 20 ans de la LHJMQ. Il a quand même une espèce de... Il joue bien dans les deux sens de la patinoire. C'est quelqu'un qui a une certaine hargne. Donc, et là, de voir que tu es capable de l'obtenir sur un contrat de Ligue américaine, ben c'est parfait. T'sais. Je le dis souvent, les gars, ça, c'est une chance que tu peux prendre et qui ne te coûte absolument rien. Si ça ne fonctionne pas avec Justin Ducharme, ben on aura essayé, on lui aura fourni les outils nécessaires pour qu'il puisse se développer, puis ça a tout simplement pas fonctionné. Mais si ça fonctionne, par contre, là, ça devient un vrai vol. Tu obtiens un joueur, supposons qu'il joue dans la LNH, les gars, là. Ben tu obtiens un joueur gratuitement que tu as réussi à développer par ton système de Ligue américaine avec Joël Bouchard, etc. Ça devient super intéressant, puis ben moi, je vais seulement saluer mon chapeau, plus qu'on peut donner de chance à des Québécois dans le système des Canadiens, que ce soit à Montréal, à Laval ou à Trois-Rivières, ben c'est tout simplement génial. Là.
Et mais si on fait le compte, là, ça fait avant Ducharme, il y a eu des ruisseaux. On sent vraiment l'intention de bâtir une filière québécoise dans le système justement de filiales des Canadiens, que ce soit avec le club, l'affiliation avec Trois-Rivières. Je pense que ça, c'est une avenue qui est vraiment intéressante. On se plaignait souvent, hein, les gars, du manque de Québécois au sein de la formation des Canadiens. Bon, c'est pas forcément des joueurs qui vont finir par jouer avec le grand club, mais au moins, on donne une occasion à des joueurs d'ici de se développer, une occasion qu'ils n'auraient peut-être pas obtenue au préalable.
Non, mais ça, là, honnêtement, je vais faire un petit aparté. Là. Moi, le débat des Québécois avec le Canadien de Montréal, je le sais que c'est un terrain glissant, mais je trouve ça hautement ridicule. Le Canadien, en ce moment, est en demi-finale. Et là, on ressort la cassette de « Ouais, mais s'il gagne, je vais pas être content parce qu'il n'y aura pas de Québécois. » Bon, premièrement, il y a Philippe Dano.
Bon, ça, c'est un commentaire absolument ridicule là, de notre ami Luc Ferrandez, mais il y a quand même un juste milieu là-dedans. Là. On a le droit de réclamer plus de Québécois avec l'équipe sans nécessairement souhaiter sa déconvenue. Là.
On a le droit de réclamer plus de Québécois, mais par contre, si on réclame plus de Québécois, on peut pas crier de l'autre côté « Caulfield, Suzuki, KK ». Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, Kotkaniemi, là, ça vient pas de la Beauce. Là. Il faut être conséquent dans ce qu'on avance. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait plus de Québécois. C'est tout à fait normal, c'est l'identité. C'est les racines, c'est correct. Mais ça reste que quand le joueur est talentueux puis qu'il vient de la Finlande ou qu'il vient de la Slovénie, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça, par contre, je suis content qu'avec la nouvelle organisation, les Lions de Trois-Rivières, ça va favoriser justement la signature de joueurs québécois pour qu'ils puissent venir et grandir dans l'organisation du Canadien de Montréal. mais pas de là à en amener à tout prix.
Mais je suis content que tu amènes le débat, les autres, parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux positions extrêmes et on n'est pas prêt de se rejoindre au milieu là-dedans. Moi, ce que je veux, je veux militer pour le juste milieu dans ce débat-là, c'est le fait que, on va privilégier le meilleur joueur disponible sans égard à sa nationalité, spécialement au premier tour, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que quand tu es les Canadiens de Montréal, tu as une moins grande marge d'erreur avec les Québécois que les autres équipes, et c'est tout à fait naturel, ça vient avec le marché. Donc, Anthony Beauvillier, je te donnerai moins le bénéfice du doute si tu le laisses échapper, si tu ne le sélectionnes pas. Si tu sélectionnes Vegdemo au lieu de Nicolas Roy, tu auras moins le bénéfice du doute. Si tu laisses passer la chance de repêcher Samuel Girard pour aller chercher un vétéran comme Andrew Shaw, tu as encore une fois moins le bénéfice du doute. Tu as le droit d'être critiqué si tu lèves le nez sur un Québécois, alors que ça aurait dû être le bon choix. C'est là que je m'inscris en faux un peu avec toi. Je pense que les Canadiens ont une responsabilité de prendre les bonnes décisions le plus souvent possible avec les Québécois.
Mais en fait, je suis pas mal de ton avis, honnêtement. On n'a pas le droit d'en laisser passer dans notre cours parce que on devrait avoir plus de scouts au Québec.
On devrait avoir le meilleur recrutement. Par une énorme longueur d'avance, là. Tu dois avoir le meilleur recrutement au Québec.
Tu sais, je veux dire, c'est une chose de faire du scouting en Finlande ou en Suède. C'en est une autre d'aller virer à Val-d'Or ou à Bathurst ou peu importe. Tu sais, la LHJMQ devrait être scrutée à la loupe et les bons joueurs de la LHJMQ ne devraient pas échapper aux Canadiens de Montréal. Là, je te rejoins à 1000%. Exact. Mais de là à privilégier les Québécois ou encore, oui, je sais que c'est un commentaire qui est isolé, mais ça reste qu'il a été émis sur la Twittosphère. De souhaiter que le Canadien soit éliminé tout simplement sous prétexte que le Canadien ne compte pas assez de Québécois, c'est ridicule.
C'est complètement ridicule. C'est de la petite politique, puis c'est une ineptie, là, tout simplement.
Bon, parfait. Maintenant que ce dossier-là est clos, Marky, est-ce que tu penses qu'avec justement les Lions de Trois-Rivières, ça va permettre à plus de Québécois de faire leur apparition au sein du Canadien de Montréal, comme on l'a vu dans les derniers jours avec Desruisseaux et justement avec Justin Duchamp?
Ben, ça peut pas nuire, ça, c'est certain. Mettez-vous à la place d'un Québécois de 20 ans qui a là le choix, là, il y a eu un dilemme entre poursuivre sa carrière de joueur de hockey, si on veut, dans les rangs universitaires canadiens, que ce soit à Concordia ou à McGill ou dans les universités du Nouveau-Brunswick. Il y a ce choix-là ou de se retrouver dans la ECHL. Et lorsque je me suis amusé à regarder un peu les équipes de la ECHL, je vous nomme des noms, là. Vous me direz, si vous mettiez à la place d'un joueur québécois de 20 ans, tu as le choix entre demeurer à Montréal pour une université quand même prestigieuse comme Concordia ou McGill, ou de tenter ta chance au niveau professionnel, et peut-être que ça peut fonctionner dans la LNH, mais tes chances sont quand même... tu pars avec deux prix, si on veut, là. Vous me direz si vous auriez le goût de jouer, les gars, pour les Stingrays de la Caroline du Sud, les Swamp Rabbits de Greenville, les Nailers de Wheeling. On parle d'endroits assez exotiques.
Les endroits marginaux, là, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, le contre-argument que j'apporterais ici, c'est que tu as beaucoup moins de visibilité dans l'universitaire canadien. Si tu veux faire carrière, là, éventuellement. Là.
Non, mais mon point avec Trois-Rivières, ce que je m'en vais, c'est que c'est peut-être moins tentant de vouloir aller à un endroit comme Greenville. Ou de jouer pour les Solar Bears d'Orlando qui ont un superbe logo, soit dit en passant. Là. C'est probablement mon logo préféré dans l'histoire du hockey. Taper les Solar Bears d'Orlando, c'est incroyable.
Ben, les noms d'équipe, je te dirais aussi, sont assez spectaculaires. Les Swamp Rabbits, là. Hit tabarouette. Les Wheeling, les Nailers de Wheeling aussi, ça c'est dur à battre. Surtout si t'es un dur à cuire qui va jouer là-bas, là, c'est aux anges. Là.
C'est ça, ça en dit long. Mais pour revenir aux joueurs québécois, ben là, maintenant que tu as l'option de Trois-Rivières, ben c'est beaucoup plus facile. C'est un marché, c'est quand même une grosse ville au Québec, Trois-Rivières. J'ai demeuré là 3 ans, les gars. Anthony, tu viens de pas très loin de Trois-Rivières. C'est une superbe ville. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau des activités. Ça vibre. Et puis, je connais la population de Trois-Rivières. Le fait de savoir qu'il y a une affiliation avec les Canadiens de Montréal, ça va les rendre extrêmement fiers. Puis, ils vont se diriger à l'aréna pour soutenir leurs joueurs. Puis, sans ce côté-là, je pense que de jouer devant une aréna où il va y avoir davantage de personnes et des gens qui sont passionnés et qui vont être derrière leur équipe, ça va être davantage gagnant que de se retrouver du côté de Greenville où, on va être honnête, les gars, les assistances dans la ECHL, il y a certains endroits que ça va bien, là, supposons Worcester ou des endroits comme ça au Massachusetts, ça, c'est pas trop mal, mais les endroits comme Orlando, tu sais, on va pas se faire d'histoire, là. Les équipes de la Floride, d'ECHL, ont peut-être un peu plus de difficultés. Puis, donc, tout ça pour dire que ça peut encourager les Québécois à poursuivre le chemin professionnel. Et c'est de cette manière-là que peut-être on va voir plus de Québécois, pas nécessairement dans la LNH, mais au moins dans la Ligue américaine. On va être capable davantage de les développer.
Ouais, non, c'est clair. Puis ça va être intéressant à suivre. C'est un peu le modèle européen du soccer, d'avoir plusieurs étapes de développement pour finalement avoir ton joueur. Puis tu peux le suivre plus à la loupe, c'est plus facile. Tu sais, cette année, il y a eu énormément de rotation avec le Rocket de Laval parce qu'il y avait un surplus de joueurs. Ben là, tu sais, tu peux avoir certains niveaux. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant à suivre. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance à la maison là, de voir le logo des Lions de Trois-Rivières.
Superbe.
Honnêtement, c'est très joli. Là. On le voit justement à l'écran. Là. Moi, je trouve que c'est une réussite sur toute la ligne. Là. Le logo, il est très joli. C'est bien réussi. Donc, je leur lève mon chapeau. Puis peut-être que de cette façon-là, on va être en mesure de créer des joueurs qui vont devenir peut-être des...
Si tu peux me permettre, le grand avantage d'avoir une équipe de la ICHL qui est entièrement affiliée à toi. Là. Et je ne parle pas là, d'un partenariat là, quand tu te retrouves dans une situation où l'équipe est vraiment partagée entre plusieurs organisations ou vraiment c'est juste une organisation qui accepte de prendre certains de tes joueurs. Ben là, le Canadien a vraiment sa propre équipe ICHL. Ben, l'avantage, je trouve, avec la ICHL, c'est pour le développement des gardiens de but. Parce que si dans ton système de développement, ben, tu as 5-6 gardiens de but, ben, veux pas, tu as des gardiens de but en trop qui ne pourront pas jouer à Laval, par exemple. Alors ça, ces gardiens-là, ils vont aller poursuivre leur développement dans la concession de la ICHL. Et c'est pas rare qu'on va voir un gardien de but. Ben, on sait comment ça peut prendre du temps, un développement, puis comment des gardiens peuvent se développer un peu de façon tardive. Mais c'est pas rare de voir un gardien de but passer par la ICHL pour finalement atteindre la LNH. Donc, vu qu'il faut tellement être patient dans le développement des gardiens, ben, c'est tellement une avenue importante pour eux dans le développement de la ICHL parfois, que moi, je vais trouver ça intéressant si le Canadien décide de se tourner vers certains gardiens de but québécois de la LHJMQ pour leur donner une chance avec justement les Lions de Trois-Rivières. Ben, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner là, à plus long terme.
C'est un bon point pour les gardiens, Nick. Là, je vais prendre un exemple, puis je le sais que ce n'est pas le plus grand gardien dans la LNH en ce moment, mais ça donne une idée que ça arrive assez souvent que des gardiens jouent dans la ICHL et se retrouvent dans la LNH. C'est Marcus Hogberg avec les Sénateurs d'Ottawa. Pas plus tard qu'en 2018-2019, ben, il a joué des matchs au niveau de la ICHL.
Jack Campbell, Jordan Bennington, je suis sûr que je pourrais t'en nommer d'autres là, si je me mets à y réfléchir, mais il y a plusieurs exemples. Il y a Slavalak, ouais.
Mais tu sais, c'est ça, tu as un excellent point. Le cinquième ou sixième gardien de ton organisation ici, ben, les Canadiens, c'est le meilleur exemple. Là. Michael McNiven a joué quand même plusieurs saisons.
Ben, on a eu de la misère à lui trouver un poste là, par moment. McNiven, là, ça a été un cauchemar pour lui. Il ne réussissait pas à jouer.
Exact. Puis, c'est ça. Si tu as tout simplement un surplus, les Canadiens avaient un surplus au niveau des espoirs chez les gardiens de but. Mais là, ça devient intéressant. Tu peux le développer. Et honnêtement, McNiven, il n'a pas été mauvais de ce que j'ai vu à Laval le peu de fois que je l'ai vu. Et par la suite, ben honnêtement, moi, je n'écarte pas du tout qu'il puisse jouer dans la LNH encore à la court terme. Là, c'est pas possible. Là.
Tu m'envoies surpris.
je serais quand même curieux, moi aussi, Marky, malgré qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais
je ne suis pas en train de te dire qu'il va jouer à Montréal. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va gagner un trophée Vézina. Mais je dis qu'il y a des chances de jouer dans la LNH. Mais ça va peut-être être ailleurs qu'à Montréal. Là, parce que les Canadiens de Montréal ou les gardiens de but, c'est quand même, il y a quand même de la profondeur. Là.
Non, ça, c'est clair. Un joueur qui a fait tourner bien les têtes c'est pas dans la ECHL, mais c'est dans la USHL, c'est Sean Farrell, lui qui a remporté le titre de joueur de l'année, espoir de quatrième tour du Canadien lors de l'encan 2020, donc le dernier repêchage. On le dit en début de podcast, c'est un des premiers sujets qu'on a traité quand on a commencé à faire le podcast La Relève, il y a déjà de cela peut-être 4 mois. Sean Farrell, c'est un beau projet parce qu'il est bourré de talent, mais il joue avec une équipe de surdoués avec le style de Chicago. Est-ce qu'on va être capable de bien l'évaluer? Eh bien là, ses pairs l'ont nommé joueur de l'année. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cet honneur-là? Parce qu'on le sait, il joue quand même dans un calibre qui est un peu inférieur.
Ben, moi, je vais tout simplement dire qu'il a fait ce que je m'attendais. Lorsque je m'en suis jamais caché, les gars, Sean Farrell, lors du repêchage 2020, je l'adorais. Je l'avais milieu de deuxième tour dans ma liste. Finalement, c'est devenu un choix de quatrième tour des Canadiens. Donc, moi, selon moi, c'est un des plus beaux vols de ce repêchage.
Et certains experts le plaçaient même à la fin du premier tour.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un talent d'élite. Là. Je veux seulement revenir en arrière. Là. Lorsque Cole Caulfield a joué au championnat mondial des moins de 18 ans, Sean Farrell était là également comme joueur de 16 ans. C'était un des trois ou quatre joueurs de 16 ans avec, avec d'autres joueurs. Là. Mais tout ça pour dire, ça montre à quel point il avait du talent. À un jeune âge, il a joué avec un, contre des joueurs un peu plus âgés. Puis honnêtement, avait pas mal paru. Tu sais. Donc, c'est de le voir jouer dans la USHL une deuxième saison. Tout ce que tu voulais t'attendre, c'est de le voir dominer à être parmi les meilleurs joueurs du circuit. Puis, ben, on est obligé d'admettre que ça a été mission accomplie. Il y a eu 16 points de plus que le deuxième au classement des meilleurs pointeurs, qui était son coéquipier, là, Matthew Coronato. Donc, non, honnêtement, moi, c'est tout simplement, je suis pas déçu, je suis pas agréablement surpris. C'est tout simplement ce que je m'attendais, c'est qu'il domine. Et honnêtement, j'ai bien hâte de suivre les prochaines saisons. Je pense que ça peut être un espoir vraiment intéressant pour les Canadiens.
Ouais, il est devenu le deuxième joueur de l'histoire là, de la USHL à dépasser le cap des 100 points. Donc, quand même, ça, c'est assez impressionnant. Je le répète, oui, c'est vrai, il jouait avec une équipe qui avait beaucoup de talent, dont Coronato, que Marty, tu viens de mentionner.
Je vous pose une question quiz, les gars. C'est qui le premier qui a obtenu 100 points dans la USHL?
Kevin Roy,
ben...
J'allais vu dans mes recherches un peu plus tôt. Okay. J'ai pas de mérite.
Non, mais c'est intéressant de savoir que c'est un Québécois. Tu sais,
Vous surprenez les boys, là. J'avais réussi celle-là.
Mais ça va être intéressant à voir Sean Farrell parce que l'année prochaine, il va se diriger du côté de Harvard NCAA. Et là, on aura une meilleure idée, je pense, de son développement parce qu'il va passer de la USHL à jouer contre des hommes, jouer contre des personnes avec des meilleures statures. On le sait, on le disait au début de l'année, son physique, c'est peut-être une chose qu'il devra travailler. Quand tu mets 101 points sur le board, clairement, l'aspect offensif, ça fonctionne. Mais là, le fait d'être un peu bousculé, pensez-vous que ça va impacter son jeu?
Moi, ce qui me rassure dans le cas de Sean Farrell, c'est son intelligence du jeu. Puis je pense que ça, c'est l'aspect de ton jeu qui te permet de t'adapter le plus rapidement et le plus facilement à un calibre de jeu plus relevé. Alors, moi, j'ai pas de doute par rapport au fait que Sean Farrell va faire des points dans la NCAA l'an prochain. Maintenant, ça va peut-être prendre un peu de temps avant que son entraîneur puisse l'utiliser dans toutes les situations. Hein. Mais je vous ramène un peu à Cole Caulfield, un autre petit joueur. Sa première année dans la NCAA a été prolifique, a été très bon. Mais est-ce que Tony Granato se sentait à l'aise de l'utiliser dans toutes les situations? Est-ce qu'il était un joueur complet? Ben, pas nécessairement, et c'est pour ça que le Canadien ne lui a pas fait signer son contrat d'entrée immédiatement. Finalement, ça a été payant pour lui jouer la deuxième année. Granato l'a utilisé à toutes ses sauces, en a fait un joueur assez complet. On le voit en série en ce moment, mais c'est peut-être ça qui va arriver avec Sean Farrell. Donc, côté production, moi, j'ai aucune inquiétude l'an prochain, mais ça va peut-être lui prendre 2-3 ans avant de vraiment devenir un joueur complet, prêt à passer au niveau professionnel.
Ouais, t'as raison, je pense, Nick. Moi, je m'attends à le voir jouer deux saisons, je te dirais, avec Harvard. Comme tu viens de le dire, là, vision de jeu exceptionnelle, vraiment incroyable. Puis moi, c'est pour ça que j'ai toujours été fasciné par ça. Non seulement il a une excellente vision de jeu, mais c'est également quelqu'un qui a beaucoup de fougue, qui est quand même tenace. J'ai simplement regardé son dernier match, là, parce que, pour le mentionner, le Steel de Chicago a gagné le championnat de la USHL. Et dans le dernier match contre contre Fargo, il y a un jeu défensif là et il joue genre des avantages numériques puis il coupe un jeu pour réaliser le dégagement. Ça en montre puis c'est comme il plonge à la dernière seconde pour soulever le bâton puis réussir le dégagement. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui a du talent puis qui a une bonne vision de jeu, c'est quelqu'un qui s'implique énormément dans le jeu. Donc c'est davantage intéressant. Je suis en train de comparer les deux styles. Mais on a eu David Desharnais à Montréal, qui était un excellent fabricant de jeu, même s'il y avait des lacunes, notamment au niveau du physique. Mais au moins, Sean Farrell, au niveau de l'éthique de travail et de la hargne, je pense que là-dessus, par rapport à Desharnais, puis je ne dis pas que Desharnais n'était pas travaillant, mais je pense que Farrell, lui, c'est une énorme qualité dans son jeu qui va lui rajouter un outil de plus lorsque éventuellement il pourra se retrouver au meilleur joueur professionnel.
Il a terminé avec 10 points en 8 parties, là, comme Marty l'a mentionné, pour remporter la Coupe Clark dans la USHL.
Mais par rapport au style de Chicago, les gars, je ne sais pas si vous avez regardé des matchs. Avez-vous vu Adam? Il y a un joueur qui m'a vraiment sauté aux yeux. On a parlé de Connor Bedard, on a parlé de Matvei Michkov. Ben, je peux vous dire qu'il y en a peut-être un troisième pour le repêchage 2023. Ça va être à surveiller. Adam Fantilli, qui joue... je sais pas si tu l'as vu un peu à l'heure, Nick, ou si tu as entendu parler de ce joueur-là.
Là, je me suis concentré sur Ryan Ufko, Marty. Là, faut que tu m'en donnes un à la fois, parce que là, je peux pas tous les voir.
Mais Adam Fantilli, honnêtement, les gars, c'est un joueur de... c'est un late là, dans le jargon. Donc, il est né en 2004, mais c'est novembre, si je ne me trompe pas. Là. Mais écoute, moi, je voulais d'abord suivre Sean Farrell, savoir comment il s'était comporté lors des séries. Puis Adam Fantilli m'a tout de suite sauté aux yeux. Un mélange, c'est un gros bonhomme. C'est quelqu'un qui a quand même d'excellentes habiletés individuelles. N'a pas peur de déjouer les adversaires. Il sera peut-être pas le premier. Je pense que Connor Bedard a une longueur d'avance. Là. Mais surveiller ce nom-là, Adam Fantilli, je pense que ça peut être vraiment intéressant dans les prochaines années. Là,
Quelle position, Marty?
C'est un ailier, si je ne me trompe pas. Lui, c'est un Ontarien, donc je jouerai avec le Canada en principe, même s'il a choisi la voie des universités américaines. Mais je vous le dis, surveillez-le parce que je pense que ça pourrait devenir une vedette dans la LNH. Puis là, c'est sûr qu'on est loin, là. Mais je pense qu'il y a un excellent potentiel pour être un choix très. Pour être sélectionné très tôt au repêchage 2023.
Si Sean Farrell va poursuivre sa carrière à Harvard l'année prochaine, il y en a un autre qui va changer d'équipe.
C'est un centre, Fantilli. Je viens de vérifier, c'est un centre.
Parfait, merci, Marty. Il y en a un autre qui va changer d'équipe. L'année prochaine, c'est Vassili Ponomarev. Il va quitter pour la Russie. Ça, c'est un dur coup pour les Cataractes. Mais est-ce que c'est un dur coup pour les Hurricanes d'envoyer leurs jeunes joueurs, on le sait quand même, un choix de deuxième tour, d'envoyer leurs jeunes joueurs se développer en Russie? C'est pas un drôle de move, ça?
Mais pour lui, c'est sûr que Ponomarev, s'il a fait le move, c'est sûr qu'il va se sentir plus à l'aise là-bas. Là, je veux dire, t'es dans ton pays. Mais c'est le développement russe parfois qui peut faire sourciller. C'est ça, je pense, que qui est le point de litige. Litige, j'ai pas vraiment de litige, mais c'est le point qui me ferait sourciller, moi, je dirais, parce que il y a des situations où, assez politiques parfois en Russie qui font en sorte que un jeune joueur n'a pas de temps de jeu. Alors, est-ce qu'il va avoir assez justement de temps de jeu dans des situations match pour pouvoir se développer puis travailler sur les petits aspects de son jeu qu'il doit corriger? C'est permis d'avoir des doutes. Oui, absolument, tu as des entraînements avec une équipe professionnelle, dans un contexte professionnel, avec des joueurs professionnels. Ça, c'est très intéressant. Mais encore faut-il que tu aies cette expérience-là en situation match. Et parfois, elle peut assez limité en Russie.
Oui, je me pose vraiment la question. S'il avait signé avec le SKA de Saint-Pétersbourg, je te dirais c'est une archi mauvaise. Puis j'ai tendance à penser que c'est pas une bonne idée de sa part. Là. Écoute, tu sors ces statistiques dans la LHGMQ, c'est pas des statistiques à tout casser. Je pense qu'il avait intérêt à. C'est pas comme si il se disait OK, je n'ai plus rien à apprendre dans la LHGMQ, je domine beaucoup trop. Je suis rendu à aller jouer dans la KHL. C'est pas ça du tout. Ponomarev, c'est un joueur de deuxième trio. Efficace dans les deux sens de la patinoire, là, un bon joueur de la LHGMQ, mais pas de là à dire que c'est le meilleur joueur et qu'il domine complètement, tu sais.
Ouais, écoute, c'est ça. C'est sûr que pour ce qui est de son développement, il va augmenter le coefficient de difficulté. Mais parfois, si tu brûles les étapes trop rapidement, ça peut aussi détruire ta confiance, puis au final, tu n'en es pas plus gagnant. Alors, c'est tout le temps difficile de naviguer ça. C'est très, très, très difficile pour moi de se prononcer. J'ai juste hâte de voir c'est quoi les responsabilités qu'il peut avoir là-bas, puis dans quel contexte il va être utilisé.
Et j'ai hâte de voir, c'est ça. Tu sais, quand je parlais de l'équipe pour laquelle il a signé, c'est le Spartak de Moscou. C'est une équipe un peu moins talentueuse, donc...
Ouais, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de fonds non plus. C'est une équipe qui est assez pauvre. Alors, tu sais, on n'a peut-être pas le budget pour aller chercher des gros joueurs. Donc, c'est une équipe dans laquelle je verrais peut-être Ponomarev avoir un gros rôle, par contre.
Mais c'est ça. S'il est capable d'avoir du temps de jeu et tout simplement de jouer puis pas avoir l'air trop fou, là, ça peut être une bonne idée. Mais moi, j'ai ressorti, les gars, un ancien joueur qui a à peu près fait la même chose en 2007 que moi, j'aimais beaucoup. Puis les partisans des Remparts de Québec, c'est ceux qui vont savoir de quel joueur je veux parler. Là. En 2007, il y a un Russe qui a joué avec les Remparts de Québec à 17 ans. Là, s'appelle Ruslan. C'était des jumeaux. Là. Les jumeaux Bashkirov, tu avais Ruslan et Roman Bashkirov. Ruslan était le meilleur des deux jumeaux et il a été repêché au deuxième tour par les Sénateurs d'Ottawa. Le frère Roman, lui, le frère jumeau, n'a pas été choisi. Et ça a mis hors de lui, le père des jumeaux. Au point où il a dit, je suis hors de moi, je sors mes fils de la Ligue canadienne de hockey, je les ramène en Russie. Lui, son argument, c'était, et là, à l'époque, c'était la Super Ligue russe, là, la KHL n'existait pas encore, mais lui, s'était dit, je veux que mes deux fils puissent jouer à un haut niveau. Si Roman n'a pas été repêché, Ruslan n'aura pas de traitement de faveur par rapport à son frère, donc ils vont jouer en même temps. Donc, se sont retrouvés sont retournés en Russie se développer. évidemment, c'était les Sénateurs, je ne suis pas sûr que tu as, je pense, sans avoir parlé à personne, je ne suis pas certain que ça a plu à beaucoup de gens de ce côté-là. Ben, et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Ruslan Bachkirov n'a jamais vraiment été très dominant. Là, par la suite, la KHL est arrivée et tout le système de développement russe. Mais si tu regardes ses matchs, il a beaucoup plus joué dans la Ligue américaine russe, c'est-à-dire la VHL. Et ses statistiques dans la KHL, c'est 12 points en 68 matchs. Et il a complètement passé à côté. Donc, si on avait décidé, OK, on va laisser les jumeaux Bachkirov. Et en plus, rien dit que Roman n'aurait pas été repêché en tant que joueur de 18 ou de 19 ans. Honnêtement, je trouve que le père là-dessus l'a peut-être un peu échappé, là. Mais c'est ça, pour revenir à Ponomarev, j'espère tout simplement pour lui que c'est pas cette situation-là qui va arriver. Parce que c'est un joueur qui a un potentiel de jouer dans la LNH, un excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. Ce serait dommage qu'on gâche son développement parce que, puis je sais que tu es d'accord avec moi, Nick, puis moi aussi je pense la même chose, le modèle de développement russe du hockey est vraiment à revoir. Je trouve qu'il y a d'énormes lacunes à ce niveau-là.
Oui, parce qu'on le sait, je ne sais pas si vous l'avez mentionné dans le court laps de temps que je suis parti, mais quand le joueur signifie son intention de retourner en Amérique du Nord, et là, son temps de glace chute drastiquement. Donc là, ça, c'est pas du tout bon pour le développement du jeune. Donc, est-ce que les Hurricanes sont satisfaits de le voir partir là-bas pour que peut-être quand il va vouloir revenir en Amérique du Nord, il va se retrouver à jouer des 5-6 minutes par match?
Exact. Marty avait mentionné un bon point. Alexander Romanov, lui, ça lui est arrivé, mais c'est parce qu'il était avec le CSKA de Moscou. Et ça, c'est une situation qu'on va voir souvent au sein de cette équipe-là parce que ben, c'est une des équipes les plus riches de la KHL. C'est une équipe qui regorge de super vedettes là-bas. Et c'est très, très, très politique là-bas. Mais une équipe comme le Spartak de Moscou a beau jeu d'aller chercher des jeunes joueurs de même qui vont coûter moins cher et qui peuvent apporter du talent ben, à un très faible prix. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être une situation qui est intéressante pour Ponomarev et je me garde une petite gêne avant de dire que c'est la mauvaise décision. Est-ce que je sourcille et je me pose des questions? Oui, mais je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est la mauvaise décision qu'il a prise.
Non, mais t'as raison. Puis, tu sais, par rapport aux espoirs qui vont aller jouer avec des clubs moins dominants, qui vont avoir davantage de temps de glace et qui finalement se développent, ça peut être bon. Un des meilleurs exemples, moi, je trouve, c'est Kirill Kaprizov. Kirill Kaprizov a été repêché par le Wild. Il avait joué avec Novo Kuznets, qui est une des pires équipes de la KHL. Ouais. Mais comme il n'y avait pas vraiment de bons joueurs, ben, il y avait énormément de temps de jeu et ça allait bien. Puis ça n'a pas été très long qu'il s'est retrouvé avec la formation de Ufa, donc une équipe là, de plus de milieu de peloton, si on veut. Mais justement, une équipe qui, croyant son potentiel, dans le fond, il pouvait aider l'équipe à gagner des matchs, donc a obtenu du temps de jeu en se retrouvant à Ufa. Tu comprends ce que je veux dire? Il a fait les étapes une à une. Il a joué avec un des clubs les plus faibles, a montré qu'il était capable d'être dominant. S'est retrouvé avec une équipe de milieu de peloton, a joué une ou deux saisons. Ça s'est très bien passé. Puis par la suite, les CSKA de Moscou l'a embauché. Et c'est là que Kaprizov est devenu l'un des meilleurs buteurs ou même pointeurs de la KHL. Et là, ben, on se connaît l'histoire.
Mais Panarin, là, c'est avec le Vitias de Tchekhov. Que Panarin s'était fait valoir avant d'arriver avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Encore une fois, c'est pas avec une des grosses équipes que tu te révèles au début dans la KHL. Ça arrive parfois que ben, tu fais tes marques avec une équipe moins fortunée, c'est là que tu te fais découvrir. Mais si tu arrives tout de suite avec le SKA de Saint-Pétersbourg ou le CSKA de Moscou, ben, je trouve que c'est un très mauvais casting pour toi si tu es un jeune joueur.
Parlez-en aux Canucks de Vancouver, ils doivent être énormément contents de voir que Vasily Podkolzin, celui-là, a signé un contrat parce que c'était un peu la même situation qu'Alexander Romanov. Il jouait avec le SKA de Saint-Pétersbourg, mais avait pratiquement pas de temps de jeu parce que en plus, l'organisation du SKA le savait très bien que Podkolzin visait la LNH et allait partir de toute façon après la saison.
Et c'est pas parce que Podkolzin ne jouait pas bien. Podkolzin, c'est probablement un des espoirs en ce moment qui a le meilleur éthique de travail là, qui ne joue pas dans la LNH. Ça va être un méchant bon joueur. Pas parce que, bon, il a certaines habiletés, là, mais pas nécessairement en raison de ses habiletés, mais c'est parce qu'il y a tellement de chiens, il va trouver un moyen, là, il va trouver un moyen d'être efficace dans la Ligue nationale, j'ai aucun doute.
Son style se marie bien, je trouve, j'ai l'impression. J'ai hâte de voir, là, mais au patinoire nord-américain, s'il y a moins d'espace, ben lui, je pense que c'est un joueur qui excelle.
Ouais, très puissant, très linéaire, n'aura pas de misère à s'adapter au patinoire nord-américain.
Exact, exact. Mm-hmm.
Je me mets dans les souliers des Cataractes. Si Ponomarev quitte pour la Russie l'an prochain, c'est clair que ça va leur faire mal. Mais il y a aussi Maverick Bourque là, qui pourrait ne pas être de retour avec l'équipe l'année prochaine. C'est quand même deux joueurs hyper importants à leur formation qui pourraient manquer à l'appel parce que on le sait, Bourque a bien fait dans la AHL en fin de saison là, avec les Stars du Texas. Il a bien terminé la saison. Donc, compte tenu des filiales des Stars, j'ai l'impression que Maverick Bourque pourrait avoir disputé son dernier match dans la LGMQ.
Ben, vois-tu, Bourque, ça, c'en est un qui pourrait gagner, aller à un niveau supérieur. Là, on disait que Ponomarev, ben, il ne brûlait pas nécessairement la LHJMQ. Il gagnerait peut-être à jouer une autre année dans le circuit Courteau. Mais moi, je vois très bien un gars comme Maverick Bourque aller à l'étape supérieure là, pour augmenter le coefficient de difficulté puis améliorer un peu son développement. Ben, pas que ce serait absolument néfaste pour lui de jouer une autre année dans la LHJMQ, mais ça commence peut-être à être un peu facile pour lui. Là, un gars qui voit tellement bien jouer. Se dessiner devant lui.
Ouais, puis je regarde ses chiffres, il a quand même fait 5 points en 6 parties en AHL, donc il est capable de tenir son bout à ce niveau. Moi, personnellement, je pense que c'est terminé pour lui la LHJMQ, mais ça, on verra l'année prochaine, peut-être que les Cataractes tenteront le coup de le ramener.
Mais non seulement il y a des bonnes statistiques dans la Ligue américaine pour le petit séjour qu'il a passé là, mais moi, les gars, j'ai regardé un match. J'ai regardé la rencontre des Stars du Texas contre le Wild de l'Iowa, le club école du Wild. Les Stars utilisaient Maverick Bourque comme centre du premier trio. Il jouait avec... Adam Mascarene, c'est un espoir que j'ai toujours adoré. Là.
Il a été repêché deux fois, lui, c'est vrai.
Exact. Il jouait avec Adam Mascarene et anecdote, j'avais vu les Stars du Texas peut-être deux ou trois mois auparavant. Je voulais d'abord voir qu'est-ce que Mascarene faisait avec Riley Damiani. À cette époque-là, Riley Damiani était le meilleur pointeur de la Ligue américaine. Et je voulais voir comment il se comportait. Damiani, c'est également un joueur que j'ai toujours adoré. Mais c'est davantage un joueur hargneux qui ne lâche jamais, qui va au filet. Donc, j'étais curieux de voir qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'offensivement, il s'était vraiment amélioré? Mais là, le match de Maverick Bourque, c'est Maverick Bourque qui avait le poste au centre à la place de Damiani. Et honnêtement, les gars, Bourque a été meilleur que Damiani. Il se passait davantage de choses. Bourque était davantage impliqué. Mm-hmm. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il a été meilleur qu'un joueur de troisième ou quatrième trio. Il a été meilleur que le quatrième pointeur de la Ligue américaine. Donc moi, c'est ça qui me fait dire, et tu regardes la formation des Stars, ça ne regorge pas de profondeur. Là. Moi, c'est ce qui me fait dire qu'il peut arriver au camp l'année prochaine et il peut légitimement aspirer à un poste dans la LNH. Et c'est pas seulement une idée farfelue de dire « Ah, faut toujours que j'arrive avec la mentalité de jouer avec l'équipe. » Non, lui, c'est vraiment réaliste. Je crois ses chances, honnêtement.
Ouais, puis honnêtement, Maverick Bourque, ça reste un choix de premier tour. Là, 30e au total, mais tout de même, c'est un gars qui a du talent puis c'est un gars qui, éventuellement, devrait jouer dans la Ligue nationale. Ça se passe dès l'année prochaine. OK, ce serait peut-être un peu surprenant, mais je pense qu'avec les Stars, comme Marty, tu le dis, ils n'ont pas nécessairement de profondeur. Ils ont été en finale de la Coupe Stanley l'année dernière, donc là, le retour du balancier.
Ben, écoute, et quand on voit ça de même, là, il pourrait avoir plusieurs choix de premier tour là, dans le club école des Stars l'an prochain. Si tu regardes ça, Maverick Bourque, Tyler Andrea, Riley Tuft, Thomas Harley, tous ces gars-là pourraient jouer au Texas l'an prochain. Là, ça va être une équipe intéressante à suivre dans la Ligue américaine. Riley Tuft n'a peut-être pas été le meilleur choix de premier tour que vous aurez vu de votre vécu, mais bon, ça c'est un autre débat.
Mais bon, pour revenir à Maverick Bourque également, c'est que tu sais, si le joueur est seulement offensif, puis là tu dis bon, défensivement sur un troisième ou un quatrième trio, je veux pas me risquer à lui donner une chance. Mais Maverick Bourque, il est super complet. Défensivement, il joue très bien. C'est quelqu'un qui a la pédale au plancher, qui est toujours présent dans le visage d'adversaire, constamment dans les coins, en train de se démarquer. Ça, c'est ce qui rend ça davantage intéressant. Je pense que Maverick Bourque peut jouer, puis là, je suis en train de dire qu'il va juste le premier trio avec les Stars de Dallas. Mais il peut autant faire un travail de troisième centre rempli de mission défensive que d'être très offensif et de jouer un rôle sur une deuxième vague d'avantages numériques.
Et ce que je veux souligner, Marty, là, c'est que par moment, là, Maverick Bourque s'est retrouvé dans des situations épouvantables là, avec les Cataractes. Parfois, c'était un attaquant, il se retrouvait à jouer 23 minutes par match, c'est pas plus, c'est pas beaucoup plus. Alors, il a été habitué à recevoir une certaine charge de travail. Et on sait que bon, les calendriers sont parfois plus éprouvants quand on passe au niveau professionnel. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment nuire à Maverick Bourque là, à l'étape supérieure, moi.
Ben non, mais il est tout à fait prêt. Il a joué, là, peut-être pas cette année, là, mais la saison précédente, il a quand même joué au-dessus de 50 rencontres. Il y a eu une vraie saison avec un vrai rythme. qui ressemble à la LNH. Donc ça, c'est plus facile pour lui.
Oui, c'est sûr que cette année, les données ont été faussées à cause de la COVID et tous les changements qui en sont découlés. Mais c'est vrai que Maverick Bourque, tout de même, 43 points en 28 rencontres, là, il n'a pas été mauvais du tout avec les Cataractes cette année.
Et non seulement ça, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs contre l'Océanique, là, se sont fait surprendre au premier tour. Je vous dirais, le premier trio, là, Xavier Bourgault et Olivier Nadeau, eux, ça a été assez difficile. Eux, tu peux te poser certaines questions. OK, ça n'a pas été très, très, très facile. Mm-hmm. Mais Maverick Bourque, lui, c'était pratiquement... il y a d'autres joueurs qui sont bien faits, là, mais Maverick Bourque, lui, il était égal à lui-même. Lui, jouait bien. Lui, faisait son rôle. Ce n'est pas nécessairement de sa faute s'ils ont perdu. Je pense que c'est d'autres joueurs chez les Cataractes qui ont dû en donner plus. Mais lui, Maverick Bourque, c'était parfait.
Puis, j'ai parlé à Maverick Bourque l'été dernier, là, avant le repêchage. Puis j'ai parlé à un gars qui était extrêmement brillant. Hein. C'est un gars qui étudie la game. Moi, ce qu'il m'avait expliqué, c'est pourquoi j'ai une si bonne vision du jeu. C'est parce que j'ai tellement vu d'enregistrements, j'ai tellement vu de séquences de joueurs de hockey que pour moi, ça me vient naturellement parce que ces séquences-là, je les ai déjà vues et je les ai déjà imaginées dans ma tête. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à découper la glace et à voir mes coéquipiers.
Pendant qu'on avait notre discussion sur Maverick Bourque, on a une question d'un auditeur qui est entrée via notre page YouTube. Donc, on vous invite à le faire là, si jamais vous avez des questions. Messieurs, à quoi on peut s'attendre de Sean Farrell comme production l'année prochaine dans la NCAA? Est-ce qu'un point par match, c'est réaliste?
De façon prudente, je dirais quelque chose comme 0.70, 0.75. Là, un point, ça serait très bien, mais peut-être une petite coche en dessous de ça.
Je pense qu'un point par match, ce serait une excellente saison.
Ah oui, ça serait très, très bien. Ouais.
Moi, je vais te donner un exemple. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il va jouer ce nombre de matchs-là, mais quelque chose comme 20 points en 26 matchs. Quelque chose comme ça. Moi, c'est à peu près ce que je m'attends. Il ne faut pas oublier non plus qu'Harvard, c'est une université où il y a peut-être moins de talent.
C'est ça, exact. Ça n'a jamais été réputé pour une université qui allait faire un recrutement complètement débile. Ce n'est pas la destination la plus prisée pour un gars qui va aller jouer au hockey.
Mais c'est une belle université. C'est une qui s'est développée. L'entraîneur, c'est Ted Donato. Puis, c'est un ancien joueur de l'LNH. Puis ça se passe très bien. Le seul point... c'est que, c'est ça, tout simplement, tu affrontes des Boston College, des Boston University. Northeastern est devenue une université très sérieuse, UMass Amherst. Donc, c'est là que c'est peut-être un peu plus difficile. Cependant, je vous dirais que son partenaire de trio à Chicago, Matthew Coronato, qui sera repêché au prochain encamp de la LNH, ben il se retrouve à Harvard aussi. Donc, la chenille va déjà être là, hein. Ils vont continuer à jouer ensemble. Ça, je pense que ça lui donne un avantage, tout simplement au niveau statistique.
Ça
va l'aider. Là.
Et tu parlais de Boston College et Northeastern et toutes les autres équipes qu'il va affronter. Moi, je pense qu'un peu d'adversité, ce ne sera pas mauvais pour l'évaluation de son jeu. Il va passer de première équipe de la Ligue à peut-être une équipe de bas de classement. Donc, ça va être intéressant de voir de ce qu'il y a dans le ventre, comment il est capable de réagir parce qu'ils ne sont pas habitués de perdre souvent. C'est facile de mettre des points sur le board. Donc là, ça va être une dynamique complètement différente l'année prochaine à Harvard. Et un peu comme vous, là, s'il est capable d'obtenir de 0.75 à 0.80 points par match, là, je pense que ce serait très satisfaisant pour Sean Farrell.
Mais tu sais, je trouve que les gens sont un peu sévères par rapport à la USHL puis dire « Ah, Sean Farrell a joué dans un calibre de jeu inférieur, voire pratiquement médiocre. » Mais Sean Farrell n'est pas le seul qui a dû se rabattre sur un plan B pour être capable de jouer au hockey. J'ai sorti des noms parmi les meilleurs joueurs de la USHL. Là. Mason Lowry, il a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la USHL. Lui, c'est un choix de deuxième tour des Bruins. T'as Matthew Savoie qui a joué des matchs dans la USHL. Lui, c'est un des meilleurs espoirs pour le repêchage 2022. J'ai parlé d'Adam Fantilli. Alex Laferrière, qui n'est pas un Québécois en passant, là, c'est un Américain. Choix de troisième tour des Kings en 2020. Daniil Gushin, un Russe, a joué également dans la USHL parce qu'il n'a pas eu le choix. Choix de troisième tour des Sharks. Donc, je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Cole Sillinger, excellent espoir au repêchage, a joué du côté de Sioux Falls. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis, mais il y a plusieurs joueurs qui ont été dans la même situation que Farrell, ce qui a fait en sorte que la USHL cette année était plus supérieure à
je comprends ce que tu veux dire.
De dire que Farrell était dans un calibre médiocre, si on veut, faut se garder une petite joint, je pense.
Ouais, c'est juste qu'il va quand même rester une énorme coche même si la USHL était à un calibre supérieur cette année-là, il va avoir, c'est le fossé quand même majeur là, entre la USHL et la
NCAA. Ça, c'est clair.
On est d'accord, mais il a quand même affronté des joueurs de qualité. Tu sais, il jouait à Chicago, mais Laura, lui, c'est un joueur qui jouait à Green Bay, donc il a dû... Ils ont dû s'affronter quand même souvent.
Ouais. C'est ce que je vois. Je vois certains partisans, je veux dire, s'emballer en se disant déjà qu'on a le futur Johnny Gaudreau à Montréal et blablabla. Farrell est un espoir de grade A, un espoir élite. Non, Farrell, c'est un espoir de grade. Ça reste un espoir de grade B pour le moment. Le moment, c'est un bon espoir, mais il reste des points d'interrogation. Il reste des questions auxquelles il faut répondre avant de vraiment pouvoir se prononcer sur son potentiel. Pour le moment, on va se contenter de dire qu'il y a des habiletés intéressantes, mais il va falloir le voir jouer dans la NCAA avant de vraiment pouvoir avoir de faire une projection là, qui est réaliste là, sur ce qui va arriver avec lui.
Ben, on boucle la boucle. C'est exactement ce qu'on a dit il y a 4 mois. C'est un beau projet qui est intriguant, qui est très difficile à évaluer, et on aura d'autres éléments de réponse qui arriveront l'année prochaine. On espère qu'on a répondu à ta question, Samuel. On poursuit un peu notre tour d'horizon là, des joueurs qui ont été repêchés en 2020. On le sait, Ponomarev 2020, Bourque 2020, Farrell 2020. Eh bien, un autre joueur qui a été repêché en 2020, qui a signé son contrat, c'est Anton Lundell avec les Panthers de la Floride. Choix de premier tour quand même assez élevé, le 12e au total. Lui, c'est fait. Je t'ai entendu là, avec l'organisation des Panthers.
Ben lui, là, Anton Lundell, je l'adore. Là. J'ai dit « adore » en majuscule. Quand on parle d'espoir « safe », ben, je pense qu'à côté de la définition dans le dictionnaire, tu as probablement une photo d'Anton Lundell. Mais il n'est pas juste safe. Anton Lundell, il a une intelligence sur la patinoire. Il est toujours bien positionné. Un savant passeur. Pas un mauvais lancer. Vous l'avez vu au dernier championnat mondial junior.
Il a été dominant
avec la Finlande. Moi, je pense qu'on a sous-estimé les habiletés offensives d'Anton Lundell au dernier repêchage. Oui, Anton Lundell était à un autre niveau en termes de maturité par rapport aux autres. Mais ça ne voulait pas dire que ça allait devenir un grinder ou ça allait devenir quelqu'un dont les habiletés offensives n'allaient pas continuer de progresser. Souvent, on a de la misère avec les joueurs bons dans les deux sens de la patinoire. On va tout de suite les catégoriser. Futur joueur de troisième trio là, qui va être utile, là, qui va salir le nez. Non, Anton Lundell a des habiletés offensives légitimes et je pense même qu'il pourrait devenir un centre de premier trio. Mais bon, ça ne sera pas en Floride. Là. Mais il y a un potentiel de centre de premier trio si on parle strictement de calibre de jeu.
Je vous pose la question, les gars, puis je suis intrigué parce que, comme tu l'as un peu mentionné, Nick, il y avait un énorme débat par rapport à Anton Lundell. Il y a des gens qui disaient « c'est un top 6, ça va être un joueur incroyable dans la LNH ». Il y en a d'autres qui disaient « c'est étiqueté joueur de troisième trio, tu ne touches pas à ça avant la fin du premier tour ».
Absolument.
C'était en quel camp, les gars, vous, l'année passée, là, pas ce qu'on voit cette année, mais l'année passée, c'était en quel camp, les gars?
Moi, j'étais dans le camp que c'était un choix top 10, top 15.
Top 10, top 15.
Mais en même temps, si on se remet l'année dernière...
Mais il y avait plusieurs choix. Il y avait
un repêchage qui était tellement profond l'année dernière. Ouais, on peut penser à Lucas Raymond, on peut parler à Perfetti, on peut parler à Rossi, on peut parler à Drysdale. Tu sais, il y avait énormément de joueurs. Moi qui sors 12e, je ne suis pas tombé en bas de ma chaise. De là à dire que je m'attendais à ce qu'ils finissent sur un troisième trio, non. Mais je trouve que 12e, il a pas glissé. Je le voyais pas sortir plus haut, personnellement.
Oh, non, je comprends. Absolument. Non, mais c'est intéressant. Moi, personnellement, j'entendais plein de gens dire ah,
c'est. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai.
Étiqueté joueur de troisième trio, touchez pas à ça avant le 20e, 21e, 22e rang. Puis moi, je comprenais pas nécessairement. Parce que tu regardais, t'as entièrement raison, Nick. Tout ce que tu viens de dire, c'est moi ce que je pense. Il y a davantage d'habiletés individuelles que les gens pensent. Sa vision de jeu là, est exceptionnelle. Il fait des jeux qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font sur une patinoire, mais malheureusement, c'est que les gens retiennent davantage que ah, le joueur, c'est un joueur de 200 pieds. Oui, c'est vrai, mais c'est également quelqu'un qui a des habiletés et est capable de reproduire ça dans la LNH. Je vous le dis, là, l'an prochain, ça pourrait être un des candidats au Trophée Calder. Pas nécessairement à cause de ses statistiques, mais parce que justement, défensivement et offensivement, il va faire le travail aux deux endroits. Les gens vont être impressionnés de voir à quel point une recrue peut s'adapter rapidement comme ça.
J'avais parlé avec un recruteur qui évolue en Europe l'an dernier, justement, de Lundell. Et lui, par exemple, sa plus grande inquiétude par rapport à Lundell, c'était son coup de patin. Mais est-ce que finalement, ces inquiétudes-là étaient justifiées, je pense que ça a peut-être pris un peu trop d'importance. On a peut-être fait un peu d'over-scouting là, dans le chapitre.
Moi, ce que j'aime bien de son trait de caractère qui ressort, c'est que c'est un joueur qui se présente quand ça compte. On l'a dit, il a été excessivement bon au championnat mondial junior lors des fights, mais il a été aussi bon au mondial de hockey tout récemment. Il a permis à la Finlande d'être dans le coup. Médaille de bronze pendant les fights, là, ils se sont inclinés pour la médaille de bronze là, face aux... c'est une équipe qui ont perdu en finale, c'est-à-dire là, ils ont fini deuxième là, derrière le Canada. C'est quelqu'un qui est capable d'élever son jeu d'un cran quand ça compte. Et ça, on le voit parce que c'est les tournois à petits échantillons. Donc, tu n'as pas trois chances de te faire valoir. Il faut que tu sois prêt dès le début et il faut que tu performes tout au long du tournoi. Et je pense que Lundell, lui, il a été capable d'amener son jeu à un autre niveau. Et ça, ça se transpose bien à la Ligue nationale. Ce seront des joueurs qui seront efficaces en séries éliminatoires.
Non, tout à fait. Tu sais, c'est un joueur, c'est ça. C'est plaisant de voir qu'il a même transporté la Finlande à quelque part. Je comprends qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de la LNH, surtout à l'attaque du côté de la Finlande, là. Mais de le voir premier centre, et non seulement être premier centre, mais jouer de cette façon-là, là, d'être dominant, il faut quand même que tu lui lèves son chapeau. Faut lui lever notre chapeau. C'est rare que des joueurs de 19 ans sont contre des hommes et que c'est eux qui transportent leur équipe. Ça, c'est...
Ouais, puis Marky, tu me l'as dit à plusieurs occasions, le mondial de hockey, ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir des joueurs qui viennent tout juste d'être repêchés ou des joueurs qui seront repêchés dans les prochains mois face à des NHLers, face à des joueurs qui sont établis dans le circuit. Bon, OK, on le sait, Andrew Mangiapane, c'est pas Connor McDavid, mais ça reste un joueur de la NHL. Et là, tu vois un gars comme Lundell qui est capable de tenir son bout face à ces joueurs-là. Moi, ça m'en dit beaucoup et je pense que autant le choix des Panthers, peut-être que certains le considéraient comme reach à 12, moi, je trouve qu'ils ont frappé un solide double à la clôture. Pas de question, ça va être un joueur qui va être efficace pour plusieurs années dans la Ligue nationale.
Mais comme tu l'as mentionné, je pense pas pour autant que les équipes qui repêchaient avant les Panthers ont fait de mauvais coups. C'est juste que c'est le contraire du repêchage qu'on voit à ce moment, le repêchage de l'an dernier. Le repêchage de l'an dernier, c'était plein de pépites. Là, c'était surtout dans le haut du repêchage. La première portion du premier tour, là, j'avais rarement vu un repêchage aussi profond. Là, oui, je sais que les options, ça me nuisait rapidement après là, les 15 premiers choix. Là, mais non, dans le top 15, là, c'était un des beaux top 15 là, que moi, j'ai vu de mon vécu en suivant un repêchage.
Mais l'exemple qui appuie ce que tu dis, Nick, là, je vais parler pour moi. Là. Moi, c'est que Jamie Drysdale, je l'avais septième dans ma liste, Jamie Drysdale. Mais je regardais ça, puis j'étais déçu, j'étais pratiquement... Mais pourquoi je le mets septième? Je l'adore, mais il est septième. Je me dis, je devrais être davantage 3 ou 4, mais je n'étais pas capable de le mettre devant les autres que j'aimais encore plus. Alors que si tu mettais Drysdale dans le repêchage 2021, il serait peut-être 2 ou 3e. Donc, tu sais, c'est ça. Là, t'as raison, là, le top 10 l'année passée était... particulièrement alléchant. Moi, il y a beaucoup de joueurs que j'adorais. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, là, mais moi, c'était ça en tout cas.
Est-ce que Lucas Reichel à 17 a été repêché au bon rang? Est-ce que lui, vous considérez que... On vient de le dire, il y avait un certain stack au début, ça dégringolait quand même un peu par la suite. Est-ce que Lucas Reichel, qui, bon, soit dit en passant, lui aussi a signé dans les derniers jours, la raison pour laquelle j'en parle, est-ce que lui, à 17, c'était la bonne sélection?
Oui, c'était la bonne sélection, mais comme on le dit, les options, ça me nuisait assez rapidement. On tombait vraiment dans une autre classe de joueurs après les 15 premiers rangs. Alors moi, je vois pas en Lucas Reichel une future vedette dans la LNH. Là. Ça sera peut-être un bon attaquant de troisième trio, peut-être un bon attaquant de deuxième, mais je vois pas un plafond extrêmement élevé pour Reichel. C'est un bon espoir, mais c'est un espoir qui me laisse ni chaud ni froid, là, si je veux être bien honnête avec toi.
Et je pense qu'il y a certains, il y a quelques joueurs, puis ça va être le cas à tous les repêchages. On parlait de Zachary Bolduc, ça va probablement être un choix de premier tour pour la même raison que Lucas Reichel. C'est que les attributs qu'il présente là, font en sorte que les chances qu'il ne joue pas dans la LNH sont assez minces. Puis Lucas Reichel, il y avait... C'est là que les équipes, vers la fin du premier tour, préfèrent prendre des joueurs qui sont un peu plus safe que de prendre une chance et que le joueur, finalement, n'obtienne jamais un rôle important dans la LNH. Et Lucas Reichel, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il jouait quand même dans une ligue professionnelle en Allemagne, jouait avec un ancien joueur de la LNH qui est maintenant notre collègue, les gars, Maxime Lapierre. C'était son joueur de centre. Donc, Maxime Lapierre, on va quand même lui donner, c'était un exemple de vitesse, un exemple de caractère, d'éthique de travail. Donc, en ayant Maxime Lapierre qui travaillait avec lui, ben, ça l'a vraiment aidé.
Absolument.
Donc, tout c'est. Et c'est un joueur qui était vraiment. Qui jouait vraiment comme un professionnel, honnêtement. Tu pouvais voir un petit peu de Maxime Lapierre en Lucas Reichel. Puis un excellent coup de patin aussi, là, Lucas Reichel. Donc, c'était pas une surprise de voir que les Hawks de Chicago, ben, eux, ont décidé de lui donner une chance. Puis ça va être assurément un joueur de la LNH. Mais je suis d'accord avec Nick. Moi, je pense que. Moi, je l'avais plus loin parce que ces joueurs-là, je préfère tout le temps les prendre peut-être en deux ou troisième tour. Mais c'est ça, ça reste quand même un bel espoir.
Là. Sans être dominant là, au sein de l'Allemagne, là, il a quand même contribué au fait que son équipe a terminé au quatrième rang, ce qui est quand même pas si mal là, compte tenu des équipes qui étaient présentes. Là. L'Allemagne, oui, on le sait, c'est une meilleure formation qu'il y a 25 ans, mais ça reste quand même assez surprenant que l'Allemagne devance la Suède, par exemple.
Ouais. Je vais apporter un bémol à ses statistiques, par contre, là, j'ai regardé ça en profondeur. Il y a eu 6 points en 9 matchs, mais ces 6 points sont survenus contre la Lettonie, la Norvège et l'Italie. Donc, faites le calcul, là, 0 point contre les États-Unis, contre le Canada, contre la Finlande. Je ne suis pas en train de dire que c'est un danger, mais c'est simplement une statistique pour dire que contre les bonnes équipes, il y a peut-être un peu moins sorti que contre les équipes avec moins de talent.
On continue dans le repêchage 2020. On parle de ce top 10 qui était stacké. Bon, mais il est sorti au 9e rang, Marco Rossi, avec le Wild Marty, ton joueur. Lui, ça a été quand même inquiétant dans les derniers mois. Pour les gens qui ne le savent pas, il a contracté la COVID en novembre. Il a joué le championnat mondial junior avec l'Autriche durant le temps des fêtes. Le 10 janvier, il a été mis de côté en raison d'une blessure au haut du corps. Et finalement, le 30 janvier, il est retourné en Autriche pour être auprès de sa famille parce qu'il n'allait pas bien du tout. Il devait reprendre de ses forces. Et bien là, dans les derniers jours, il a recommencé à patiner. Est-ce que c'est un soupir de soulagement, Marty? Pas pour l'analyste, là, pour le fan, là, Antoine. Là.
Mais écoute, je vais seulement remettre les choses en contexte. Là. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Marco Rossi a joué d'abord un match dans la National League en Suisse là, avec les Lions de Zurich. Il a joué une rencontre. Par la suite, peu de temps après, là, a contracté la COVID-19. Puis lui pensait qu'il était peut-être correct, donc s'est présenté avec l'équipe autrichienne pour le championnat mondial des moins de 18 ans, de 20 ans plutôt. Je vais être honnête avec vous, les gars, lorsque je regardais Marco Rossi jouer, puis je le voyais jouer des images au banc, je trouvais ça drôle, je trouvais comme c'est un...
Toujours à bout de souffle.
Mais ça, c'est une bête d'entraînement. C'est quelqu'un qui carbure à s'entraîner. C'est quelqu'un qui est toujours au-dessus des autres au niveau de la préparation physique. Puis tu le regardais, tu es constamment en train de retenir son souffle. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal de voir. Tu sais, d'autres joueurs, tu pourrais dire, OK, c'est normal. Mais Marco Rossi, c'était extrêmement surprenant. Mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Il y a eu.
Ben, on se disait, il joue pour l'Autriche. Peut-être que c'est le fait qu'il n'est pas entouré. Peut-être que c'est le fait qu'il est seul pour driver cette équipe-là. Je me suis jamais dit que c'est parce qu'il n'était pas en forme en raison de la COVID-19.
C'est ça. Puis, il a montré quand même de beaux flashs, tandis qu'il dominait là, un Marco Rossi en forme. On peut deviner qu'il aurait été capable au moins d'amener quelques points sur le tableau. Là. Mais tout ça pour dire qu'il est sorti du championnat mondial junior, s'est présenté avec le Wild pour le camp d'entraînement. Et lors des tests médicaux, c'est là que les médecins du Wild ont détecté qu'il y avait une anomalie au niveau de son cœur. Et c'est là qu'on a diagnostiqué une myocardite qui était due à la COVID-19 qu'il avait eue au mois de novembre. Et là, c'est là qu'on a dit, écoute, tu ne fais absolument rien. Tu prends du repos complet. Et c'est ce qu'il disait, là. S'il avait joué peut-être un autre match au championnat mondial des moins de 20 ans, ben, il y aurait eu des chances d'y passer, là, de tout simplement. Ouais. Là, on ne parlerait plus de Marco Rossi en ce moment. Puis il a dit lui-même que c'était très, très, très éprouvant au point où il avait de la difficulté à dormir, il avait besoin de dormir avec ses parents à côté de lui constamment parce qu'il disait, je ne savais pas si le lendemain j'allais me réveiller en vie. Donc c'est tout simplement incroyable de voir que là, ça va bien, qu'il a surmonté les étapes, a pu commencer à s'entraîner, puis là, ben, il a justement chaussé les patins il y a quelques jours. Donc c'est vraiment encourageant. Là, moi, c'est même pas une question d'être partisan. Je pense que tout simplement, si t'es un être humain, tu veux simplement souhaiter le bien de la personne. Puis ben là, de voir que ça se passe bien pour l'instant. Puis c'est tellement un gars travaillant. Si tu veux miser sur un joueur malgré ces problèmes-là pour se retrouver au prochain niveau, je regardais les ajustements qu'il a fait, par exemple. Il a vu que la viande pouvait avoir des dommages sur son cœur. Donc, lui, ce qu'il a décidé, c'est de devenir végétarien pour s'aider au niveau cardiaque. Ça vous montre à quel point il est prêt à faire... Tous les joueurs sont prêts à faire des sacrifices, mais lui, je trouve qu'il est peut-être davantage prêt, plus que d'autres, pour vraiment atteindre son rêve au point de changer, au point de devenir végétarien, justement. Mm-hmm.
Le Wild l'a confirmé, il devrait être du camp d'entraînement là, à l'automne prochain. Cependant, on le sait, un an de retard dans le développement, est-ce que ça va lui faire mal? C'était quand même une vedette avec les 67 d'Ottawa. Il était un joueur prêt, il semblait être capable de dominer dans la Ligue nationale. Mais là, cette année-là perdue, est-ce qu'il va avoir du rattrapage à faire?
Mais écoute, il y a peu de choses qu'on sait sur la COVID longue, là, parce que c'est ça qui a frappé Rossi. Encore beaucoup de faits médicaux qui restent à être analysés par rapport à ça. On ne sait pas si ses capacités pulmonaires à long terme vont être affectées. Mais bon, pour ce qui est du temps de développement qu'il a perdu, ben, c'est sûr que c'est un joueur qu'on voyait peut-être avoir un impact immédiat dans l'NH. Donc, c'est sûr qu'il a perdu ce temps-là. C'est peut-être pas un joueur qui va pouvoir faire sa marque immédiatement, finalement. Mais c'est du temps qui peut être rattrapé. Là. Rien indique que Rossi ne pourra pas atteindre son plafond. Je veux dire, il va peut-être l'atteindre plus tard, mais il va finir par atteindre son plafond à un certain moment.
Mais j'insiste sur le fait que ce joueur-là travaille constamment. Mm-hmm. Il travaille là, depuis qu'il est tout jeune. Je vous compte une anecdote avec Marco Rossi. Son père, là, c'est un ancien joueur professionnel en Europe, là, Michael Rossi. Puis pour vous donner à quel point ils ont fait des sacrifices pour que ce joueur-là soit repêché dans la LNH. C'est les Autrichiens, on le sait, le jeu pour l'Autriche, là, mais a joué davantage en Suisse. Son père faisait 3 heures de route par jour pour permettre à son fils de pouvoir s'entraîner. Ça fait en sorte que dans la vie personnelle de Michael, il a perdu son emploi 2 fois pour son père. Marco a déjà dit qu'il s'inquiétait de son père parce qu'il disait « Parfois, j'avais peur que mon père tombe endormi au volant et qu'on se tue dans un accident de la route. » Donc, ça vous dit à quel point il avait vraiment... sacrifier énormément de sa santé carrément pour le bien-être de son fils. Donc, c'est simplement pour vous donner une idée à quel point les Rossi, là, ça travaille continuellement. Mm-hmm. Donc, de voir cette étape-là, là, s'il y a un gars, je pense qu'il peut passer à travers, c'est Marco Rossi. Trop de chiens. Honnêtement, là, les gars, il y a peut-être... Ça arrive une fois par génération de voir un gars qui est aussi déterminé que ça. Là. Ils sont tous déterminés, mais lui, c'est peut-être à un autre niveau. Là.
On lui souhaite, comme tu l'as dit, Marty, le meilleur pour lui, pour la suite des choses, au-delà du partisan, vraiment, pour son bien personnel. On espère qu'il aura la carrière à laquelle il était prédestiné. Messieurs, en cette veille du match canadien de Montréal, que j'ai bien hâte d'écouter demain soir, et je suis sûr que c'est la même chose pour vous aussi. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine.
Une petite prédiction, Anthony, avant. Là. Qu'est-ce que tu penses pour demain?
Ça va être difficile demain. Je pense qu'à Vegas, après le repos, peut-être une petite perte de momentum du côté du Canadien de Montréal. Je pense que demain, le Canadien va peut-être l'avoir... plus difficile, mais je m'attends quand même à ce que ce soit une série qui soit au moins en 6 rencontres. Donc, ce sera à voir.
OK, bon, intéressant.
Moi, je pense que si Vegas respecte pas les Canadiens, on pourra avoir une surprise demain.
Je suis d'accord. OK, bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée.
Bye.